3.
Dino Martino,
fit Eddie à voix presque inaudible.
Hum?
Demanda Jake. Ils s'étaient tous les trois embusqués derrière le wagon de marchandises ligne SOO, en se frayant un chemin au milieu des carcasses de moteurs et de vieilles voitures. Les deux portes latérales du wagon étaient ouvertes et ils avaient tous trois jeté un œil à travers, en direction de la clôture, des miradors au sud du village de Pleasantville, qui consistait en une unique rue. Le robot à six bras qui patrouillait un peu plus tôt sur l'allée était venu jusqu'ici, paradant dans la rue principale devant les boutiques vieillottes et fermées, hurlant à la cantonade ce qui ressemblait à des équations mathématiques, hurlant à s'en décrocher les poumons.
Dino Martino,
répéta Eddie. Assis au pied de Jake, Ote leva vers Eddie ses yeux brillants et cerclés d'or. Le jeune homme se pencha pour lui tapoter vivement la tête.
C'est Dean Martin qui chantait cette chanson à l'origine.
Ah ouais?
Demanda Jake, l'air sceptique.
Ouais, sauf que nous on la chantait en yaourt, ça donnait n'importe quoi.
Du genre,
ouais, mange ton boulgour, c'est bon, c'est l'amour.
« Voudrais-tu bien te taire, je te prie ?» murmura Roland.
« Tu vas pas me dire que tu sens déjà la fumée ?»
fit Eddie. Jake et Roland secouèrent la tête. Roland portait son gros engin à crosse de bois de santal. Jake avait un AR-15, mais il s'était remis le sac d'Oriza sur l'épaule, et pas seulement pour se porter bonheur. Si tout se passait bien, lui et Roland s'en serviraient bien assez tôt. 4. Comme la plupart des hommes disposant de ce qu'on appelle une aide ménagère, Pimley Prentice ne considérait pas vraiment ses employés comme des créatures pouvant avoir des buts, des ambitions et des sentiments. Comme des humes, en d'autres termes. Tant qu'il trouvait quelqu'un pour lui servir son whisky de l'après-midi et poser sa côtelette, saignante, dans son assiette à 6h30, il ne s'embarrassait pas de réflexions à leur sujet. Il aurait été abasourdi d'apprendre que Tammy, sa gouvernante, et Tassa, son valet, se détestaient cordialement. Mais après tout, ils se traitaient l'un l'autre avec un respect parfait, bien que glacial, quand il était dans les parages. Sauf que Pimley n'était pas dans les parages ce matin, lorsque Hadsmore, interprété par les 1000 cordes raides au grand complet, jaillit des haut-parleurs cachés d'Algul Siento. Le maître remontait l'allée en compagnie de Jacqueline, un technicien taïn à tête de corbeau, et de son chef de la sécurité. Ils discutaient du profond télémètre, et Pimley ne songeait pas une seconde à cette maison qu'il venait de quitter pour la dernière fois. Pas une seconde, il ne lui traversa l'esprit que Tammy Kelly, toujours en robe de chambre, et Tassa de Sonesh, toujours en pantalon de pyjama en soie, étaient sur le point d'en venir aux mains, concernant les réserves de l'office.
« Regarde-moi ça !»
s'écria-t-elle, tandis qu'il se tenait au milieu de la cuisine, plongé dans l'obscurité. Il s'agissait d'une grande pièce, et hormis trois d'entre elles, toutes les ampoules avaient lâché. Il ne restait que quelques ampoules au magasin, et elles étaient déjà mises de côté pour le bureau.
« Regardez quoi !»
Boudeur, faisant la moue, et est-ce que ce n'était pas des restes de rouge à lèvres sur sa petite bouche fourbe de petit cupidon? Il lui semblait bien que si.
« Tu ne vois donc pas les trous sur les étagères ?»
lança-t-elle avec indignation.
« Regarde, plus de haricots !»«
Il s'en fiche, haricots ou pas haricots, vous le savez très bien,
plus de thon non plus. Et tu vas aussi me dire qu'il n'en mange pas de ça. » Il en mangerait jusqu'à ce que ça lui ressorte par les oreilles, et tu le sais bien.
Vous ne pouvez pas...
Plus de soupe non plus, mon cul, il n'y en a plus,
s'écria-t-il.
Regardez là, et là, et là... Pas les Campbell Stamater qu'il préfère,
hurla-t-elle de plus belle, se rapprochant de lui sous l'effet de la colère.
Jamais auparavant leurs altercations n'avaient dégénéré en bataille rangée, mais Tassa avait dans l'idée que c'était peut-être le jour ou jamais.
Et s'il devait en être ainsi, magnifique là. Il adorait l'idée de coller une droite à cette espèce de vieille truie pète sec.
« Est-ce que tu vois des Campbell Stamater, Tassa de je ne sais pas où ?»«
Vous ne pouvez pas en rapporter une boîte vous-même » lança-t-il en avançant à son tour d'un pas. Ils se retrouvèrent pratiquement nez à nez. Et bien que la femme fût large et le jeune garçon plutôt freluquet, le valet du maître ne montra aucun signe de peur. Tammy cligna des yeux et pour la première fois depuis que Tassa était entrée dans la cuisine d'un pas traînant pour prendre une tasse de café, grand merci, une expression autre que l'irritation passa sur le visage de la gouvernante. Ça aurait pu être de la nervosité, peut-être même de la peur.
« Avez-vous donc les bras si mous, Tammy de je ne sais pas où, que vous ne puissiez rapporter un carton de boîte de soupe des magasins ?»
Piquée, elle se redressa de toute sa hauteur. Ses bajoues, graisseuses et brillantes sous sa crème de nuit, tremblotèrent d'indignation.
« Rapporter des denrées a toujours fait partie des affectations du valet, et tu le sais parfaitement.
La loi ne dit nulle part que vous ne pouvez pas donner un coup de main. Je tondais sa pelouse hier, comme vous devez le savoir. » Et je vous ai vu assise dans la cuisine avec un verre de thé glacé, pour sûr, aussi à l'aise que la vieille Ellie dans votre fauteuil préféré. »
Elle se hérissa, abandonnant toute peur éventuelle, tant l'outrage était grand.
« J'ai autant le droit de me reposer que qui que ce soit d'autre. Je venais de nettoyer par terre. »
Il m'a plutôt semblé que c'est Dobby qui l'avait fait. Dobby était un robot domestique de la catégorie des elfes de maison, modèle ancien mais toujours efficace. Ce discours ne fit qu'échauffer Tammy plus encore.
« Et qu'est-ce que tu sais des tâches ménagères, espèce de petit pédé qui minaude ?»
La couleur envahit les joues habituellement pâles de Tassa. Il prit conscience de ce qu'il avait machinalement serré les poings en sentant ses ongles soigneusement entretenus entamer la chair de ses paumes. Il lui traversa l'esprit que ce genre de pinaillage puéril et mesquin était totalement ridicule, surtout en un moment pareil, quand toutes choses touchaient à leur fin. Ils se comportaient comme deux imbéciles, se chamaillant tels des chiffonniers au bord même du gouffre, mais ils s'en fichaient. Cette vieille truie obèse le critiquait sournoisement depuis des années, et voilà que la vraie raison éclatait au grand jour, la vérité toute nue, enfin.
C'est ce qui te dérange vraiment me concernant, Saï ?
S'enquit-il d'une voix douce. Que j'astique le pieu au lieu de le planter, c'est tout ? À présent, c'était des torches et non plus des roses qui flamboyaient aux joues de Tammy Kelly. Elle n'avait jamais eu l'intention d'aller si loin, mais maintenant qu'elle y était, qu'ils y étaient. Parce que si bataille il devait y avoir, c'était autant sa faute à lui que la sienne à elle. Elle ne reculerait pas, plutôt mourir.
La Bible du maître dit qu'être pédé, c'est un péché, lui dit-elle d'un ton pudibond. Je l'ai lu moi-même, pour sûr. Dans le Lévitoque, chapitre 3, verset...
Et qu'est-ce qu'il dit du péché de gourmandise, le Lévitoque, au juste? Qu'est-ce qu'il dit d'une femme avec des nichons gros comme des traversins et un cul large comme une table de cuir?
Qu'est-ce que la taille de mon cul vient faire là-dedans, espèce de petit suceur de bite?
Au moins, je peux me dégoter un homme, moi, dit-il d'une voix suave.
« Je ne suis pas obligé de me coucher avec un lange à poussière. »« Comment oses-tu » hurla-t-elle d'une voix stridente. « Ferme ta sale bouche de vipère avant que je te la claque moi-même. »«
Pour me débarrasser d'étoiles d'araignée dans mon minou, pour pouvoir... »«
Je vais te faire sauter les dents si tu ne... » »«
Me fourrer le doigt dans ma vieille tarte aux macereines fatiguées. » Puis il lui vint quelque chose qui l'offenserait peut-être même encore plus.
« Ma vieille tarte aux macereines fatiguée est dégoûtante !»
À son tour, elle serra les poings, qui étaient trois fois plus volumineux que ceux du jeune garçon.
Au moins moi, je n'ai jamais...
N'allez pas plus loin, Sai, je vous prie.
Je n'ai jamais laissé un homme avec son sale vieux... Un sale... vieux.
L'air perplexe, elle laissa sa phrase en suspens et se mit à renifler. Il se mit lui aussi à renifler, et se rendit compte que l'odeur dans la pièce n'était pas récente. Elle lui emplissait les narines depuis le début de leur dispute, mais elle était à présent plus forte.
Tammy dit « Est-ce que tu sens ?»«
De la fumée » lança-t-il.
Ils échangèrent un regard alarmé, oubliant leur dispute que 5 secondes auparavant était sur le point de dégénérer. Les yeux de Tammy se fixèrent sur le cadre suspendu au-dessus du poêle. Il y en avait de pareils dans tout Algul Siento, car la majorité des bâtiments du complexe étaient en bois. En vieux bois. Nous devons tous travailler à créer un environnement sans feu, disait l'inscription. Tout près, dans le couloir de derrière, l'un des détecteurs de fumée encore en état de marche se déclencha en une sonnerie stridente et effrayante. Tammy se précipita dans l'office pour prendre l'extincteur qui s'y trouvait.
« Va chercher celui de la bibliothèque !»
hurla-t-elle. Tassa détala sans un mot de protestation. Le feu était la seule chose qu'ils craignaient tous. 5. Gaski Otego, le chef de la sécurité adjoint, se tenait dans le vestibule du dortoir fédéral, celui situé directement derrière la maison d'Amli, à papoter avec James Cagney. Cagney était un cantois roux qui adorait les chemises western et les Santiago, qui rajoutait 10 centimètres à son petit 1,65 m. Ils avaient tous deux un dossier à la main et ils discutaient des changements qu'il faudrait apporter à la sécurité de Damli dans la semaine à venir. 6 des gardes assignés à la 2e équipe avaient été terrassés parce que Gangli, le médecin du complexe, avait identifié comme une maladie hume du nom de légionelle. La maladie était chose courante à Tonfoudre. C'était dans l'air, comme tout le monde le savait, et les restes empoisonnés des grands anciens. Mais elle tombait toujours mal. Gangli disait qu'ils avaient de la chance de n'avoir jamais été soumis à un véritable fléau, comme la mort noire ou les chauds frissons. Derrière eux, dans l'arrière-cour pavée de la maison d'Amli, se jouait un match de basket matinal. Plusieurs taïnes et gardes cantois, qui serait officiellement en service dès que résonnerait la corne, contre une équipe de racailles recrutée parmi les briseurs. Gaski regarda Joey Rastosovic se prendre un panier monumental.
Switch!
Trampas piégea la balle et l'emporta hors du terrain, soulevant brièvement son bonnet pour se gratter le crâne. Gaski n'aimait pas trop Trampas, car il avait un goût tout à fait déraisonnable pour ces animaux surdoués dont il avait la charge. Non loin de là, assis sur le perron du dortoir et regardant lui aussi la partie, il vit Ted Brotigan. Comme toujours, il sirotait un Ozala.
Ouais, pour résumer, fit James Cagney sur le ton du type qui veut en finir avec une discussion ennuyeuse. « Si ça ne te dérange pas de suspendre 2 ou 3 des humes de la clôture pour un jour ou 2. »«
Qu'est-ce que Brotigan fait debout de si bonne heure ?» l'interrompit Gaski. « D'habitude, on ne le voit jamais émerger avant midi. C'est comme ce gosse avec qui il a fait à Miami. Comment il s'appelle ?»«
Earnshaw ?»
Brotigan avait aussi fait à Miami avec ce demeuré de Ruiz, mais Ruiz n'était plus un gamin. Gaski acquiesça.
« Ainsi fait, Earnshaw, c'est ça. Il est de service ce matin. Je l'ai vu un peu plus tôt au bureau. »
Cag, comme l'appelaient ses amis, s'en foutait royalement de savoir pourquoi Brotigan s'était levé avec les petits oiseaux. Non pas qu'il restât tant de petits oiseaux que ça, du moins à Tonfoudre. Tout ce qu'il voulait, c'était régler cette histoire de tableau de service pour pouvoir rentrer à la maison d'Amli et se faire servir une assiette d'œufs brouillés. L'un des rôdes avait déniché de la ciboulette fraîche, Dieu sait où. Enfin, c'était ce qu'il avait entendu. Et...
« Tu ne sens pas quelque chose, Kang ?» demanda soudain Gasky Otego. « Ce qu'en toi, qui aimait se prendre pour James Cagney, songea, demandait à Gasky s'il avait pété, puis se ravisa et ravala sa réplique hautement humoristique. Parce qu'il se trouvait qu'il sentait bel et bien quelque chose. Est-ce que c'était de la fumée ? Cag se dit que oui. 6. Ted était assis sur les marches froides du dortoir fédéral, respirant l'air puant et écoutant les humes et les taïnes s'injurier d'un bout à l'autre du terrain de basket. Les Cantois, quant à eux, s'interdisaient de se laisser aller à une telle vulgarité. Son cœur battait fort, mais pas si vite que ça. S'il fallait franchir un Rubicon, il se rendit compte qu'il l'avait traversé bien longtemps auparavant. Peut-être la nuit où les ignobles l'avaient ramené de force du Connecticut, ou plus vraisemblablement le jour où il avait approché Dinky avec l'idée de faire signe aux pistoleros, puisque Chimi Ruiz insistait sur le fait qu'ils étaient tout prêts. À présent, il était tendu, certes, à bloc, aurait dit Dinky. Mais nerveux ? Non. Les crises de nerfs, à ses yeux. C'était bon pour ceux qui n'avaient pas encore réussi à trancher une fois pour toutes. Derrière lui, il entendit l'un des demeurés, Gasky, demander à l'autre demeuré, Cagney, s'il ne sentait pas quelque chose. Et Ted sut avec certitude que Ailis avait accompli sa part du boulot. Le plan était en marche. Ted mit la main à sa poche et en sortit un morceau de papier. Dessus s'étalait un alexandrin parfait, bien que ce ne fût pas du racine. « Tous au sud, main en l'air, vous aurez la vie sauve. » Il le contempla fixement, s'apprêtant à émettre. Derrière lui, dans la salle de jeu de Fédéral, un détecteur de fumée se mit en route dans un braiement insupportable. « on y va !» se dit-il. Et il regarda vers le nord, là où il espérait que se cachait leur premier tireur, la femme. 7. Alors qu'il avait parcouru les trois quarts de l'allée en direction de la maison d'Amelie, Maître Prentice s'immobilisa, avec Finley d'un côté et Jacqueline de l'autre. La corne n'avait toujours pas résonné, mais une sonnerie braillait à tue-tête dans leur dos. Ils étaient à peine en train de se retourner qu'un deuxième braiement s'éleva de l'autre bout du complexe, côté dortoir.
« Bon sang, qu'est-ce que... » commença Pimley. « C'est que ça ?» s'apprêtait-il à dire.
Et c'est alors qu'il vit Tammy Kelly surgir de la maison du gardien, avec Tassa, son valet, galopant sur ses talons. Tous deux agitaient les bras au-dessus de leur tête.
« Au feu !» hurla Tammy. « Au feu !»« Au feu ? Mais c'est impossible !»
fut la première pensée qui vint à l'esprit de Pimley.
« Car si c'est bien le détecteur de fumée que j'entends hurler chez moi, et également le détecteur de fumée que j'entends dans l'un des dortoirs, alors ça doit certainement... ça doit être une fausse alerte !» dit-il à Finley. « C'est ce qui arrive à ces détecteurs de fumée quand leur batterie... »
Avant qu'il ait pu conclure cette affirmation pleine d'espoir, une des fenêtres latérales de la maison du gardien explosa, faisant voler les éclats de verre à l'extérieur. Puis il y eut une bouffée d'air orange et enflammé.
« Mes dieux !» s'exclama Jacqueline d'une voix sourde. « C'est bien du feu !»
Pimley contemplait la scène, bouche bée. Et tout à coup, un détecteur de plus se déclencha, celui-ci en hoquet strident. Grand Dieu, doux Jésus, c'était l'une des alarmes de la maison d'Amelie. Il n'avait rien pu se passer à... Mais Pimley n'eut pas le temps de répondre à cette question, car la corne résonna, indiquant le changement d'équipe. Et c'est alors qu'il mesura combien il serait vulnérable dans les 7 minutes à venir. Vulnérable à toutes sortes de choses. Il refusa d'admettre le mot « attaque ». Il lui refusa l'accès à son conscient. Du moins, pour l'instant. 8. Dinky Earnshaw était assis dans son fauteuil rembourré depuis une éternité, lui semblait-il,
à attendre impatiemment que la fête commence. En général, se trouver dans le bureau lui remontait le moral. Bon sang, ça remontait le moral de tout le monde. C'était l'effet du bon esprit. Mais aujourd'hui, il ne sentait que les nœuds de la tension qui se resserraient de plus en plus autour de ses tripes. Du coin de l'œil, il apercevait de temps à autre les Taïnes et les Cantois qui se penchaient du balcon pour les surveiller, chevauchant la vague du bon esprit. Mais il ne craignait pas de se faire proguer par eux. Du ça, au moins, il était à l'abri. Est-ce que c'était une alarme incendie qu'il entendait? De Féveral, peut-être. Peut-être, mais peut-être pas. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué. « Attends, » s'ordonna-t-il. « Ted, t'as bien prévenu que ce serait le plus difficile, pas vrai? Et au moins, Chimie est hors de danger. Chimie est à l'abri dans sa chambre et le dortoir Corbette est hors d'atteinte du feu. Alors calme-toi, détends-toi. » C'était bien le braiement d'une alarme incendie. Dinky en était certain, enfin, presque certain. Il avait un magazine de mots croisés ouvert sur les genoux. Depuis environ 5 minutes, il remplissait une grille de lettres complètement au hasard, se moquant totalement des définitions. À présent, en haut de la page, il écrivit en gros caractères gras « Tous au sud, main en l'air, vous aurez la vie sot ». C'est à ce moment-là que l'une des alarmes du premier étage, probablement celle de l'aile ouest, se déclencha dans un gazouillement braillard. Plusieurs des briseurs, arrachés en sursaut à leur concentration somnolente, poussèrent un cri de surprise. Dinky cria lui aussi, mais de soulagement. Mais il n'y avait pas que du soulagement dans sa voix. De la joie? Ouais, ça ressemblait bien à de la joie. Parce que quand l'alarme s'était mise à beugler, il avait senti éclater le bourdonnement puissant du bon esprit. L'étrange force unie des briseurs avait sauté comme un circuit électrique en surcharge. Pour l'instant, du moins, l'attaque contre le rayon s'était interrompue. En attendant, il avait un travail à accomplir. Assez tergiversé. Il se leva, faisant glisser le magazine de mots croisés sur le tapis turc, et lança son esprit vers les briseurs présents dans la pièce. Ce qui fut facile. Avec l'aide de Ted, il s'était entraîné quasi quotidiennement, en prévision de ce moment précis. Et si ça marchait? Si les briseurs saisissaient sa pensée et l'amplifiaient, transformant en un ordre autoritaire ce que Dinky seul ne pouvait que suggérer? Alors leur voix s'élèverait, accord dominant d'une nouvelle gestalt du bon esprit. Du moins, c'est ce qu'il espérait. C'est le feu, les amis. Il y a le feu dans le bâtiment. Comme pour souligner son propos, une explosion assourdie résonna, suivie d'une bouffée de fumée qui s'infiltra entre les pales du ventilateur. Les briseurs regardèrent autour d'eux avec des yeux écarquillés et hébétés. Certains même se mirent debout. Alors Dinky envoya « Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, tout va bien, dirigez-vous vers… » Il leur transmit une image parfaitement répétée de l'escalier nord, puis il ajouta des briseurs dans l'escalier. Des briseurs en train de gravir l'escalier nord, des briseurs en train de traverser les cuisines. Les craquements du feu, l'odeur de fumée, mais en provenance du dortoir des gardes dans l'aile ouest. Quelqu'un serait-il en mesure de mettre en question la véracité de son émission mentale? Quelqu'un se demanderait-il qui transmettait ce message ou pourquoi? Pas maintenant. Pour l'instant, ils avaient peur. Pour l'instant, ils attendaient que quelqu'un leur dise quoi faire, et ce quelqu'un, c'était Dinky Earnshaw. L'escalier nord montait par l'escalier nord et sortait sur la pelouse arrière. Et ça marcha. Ils se dirigèrent dans cette direction, comme des moutons suivant un bélier ou des chevaux derrière un étalon. Certains avaient saisi les deux idées de base. Pas de panique, pas de panique. Escalier nord, escalier nord. Et les diffusaient à leur tour. Et mieux encore, Dinky les entendit descendre du balcon aussi. Des Cantois et des Taïnes qui observaient de là-haut. Personne ne se mit à courir. Personne ne paniqua, mais l'exode vers l'escalier nord avait commencé.